As I woke from an unholy sleep, you were standing there breathing over me. I took a long, hard look at myself.
Radio G, bonjour, tout va bien, il est 20h. Et vous en profitez, parce que c'est Quasar on the air qui démarre. Alors un Quasar on the air cette semaine qui est bel et bien présent, il y a 15 jours, absent parce que cause Covid. Vous voyez, on se protège pendant des années et puis finalement on le chope et on va pas bien. En tout cas c'est bon pied, bon oeil, bonne oreille aussi. Et puis un programme très chargé pour cette soirée de ce 21 mars, 3 jours avant l'échéance présidentielle. Et devinez de quoi allons-nous parler ce soir ? Vous réfléchissez un tout petit peu ? Non, allez, on va pas trop vous laisser lanterner. On va parler évidemment en jeu du second tour avec les revendications de Quasar, de la fédération LGBTI+, et puis aussi des deux candidats en lice sur les questions LGBTI, mais pas que. Prêtes et prêts, alors c'est parti parce qu'on en profite. Et on ouvre toujours l'émission, vous le savez, par l'agenda, parce qu'il est important de voir ce que vous propose Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers, puisque l'émission s'appelle Quasar on the air, et c'est l'émission donc du centre LGBTI d'Angers. Alors nous sommes situés 15 rue de Jérusalem, entre l'avenue Pasteur et le boulevard des Deux-Croix, que je vous engage à ne plus en emprunté tellement il est en travaux, donc passez plutôt par l'avenue Pasteur. Alors qu'est-ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent ? Eh bien, sachez qu'il y a permanence chaque samedi, les 23 et 30 avril et le 7 mai prochain. Mais attention, il n'y aura pas de permanence entre 17h et 19h comme tous les samedis, le 14, et je vous le donne en mille. Pourquoi ? Réfléchissez, je vais vous le dire tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc vous notez la permanence, 15h, 17h. Bon, c'est une porte d'entrée. Vous avez des questions, vous allez bien, vous venez faire coucou, vous avez des difficultés, vous venez dire bonjour quand même. Vous prenez un verre et puis on vous dirige vers les personnes. Si vous avez juste ou l'épaule adéquat, si vous avez juste envie de venir papoter, ben c'est aussi le bon moment. À noter sur vos tablettes le mercredi 27 avril prochain, c'est le conseil d'administration à 18h de Quasar. Et puis, le mardi 3 mai, ce sera un nouveau numéro de Transparent, le groupe de parole pour les parents et les membres des familles des personnes transgenres, agenres et non-binaires et intersexes. C'est à 19h dans les locaux de Quasar. Le jeudi 5 mai, c'est un nouveau numéro de Quasar on the air, ici même, dans 15 jours à partir de 20h, entièrement 100% dédié à la Pride. Alors, on se donnera rendez-vous, il y aura du monde, tout ça. Vous en profiterez. Le samedi 7 mai, eh bien, c'est une réunion importante de tous les bénévoles de la Pride, que vous soyez informés ou pas encore informés, eh bien, vous vous réunirez avec nous à 14h. Alors, pour savoir où, quoi, comment, eh bien, vous suivez les réseaux sociaux et le site de Quasar. Il y a un lien pour aller vous inscrire et vous recevrez toutes les informations. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe le samedi 14 mai prochain ? Eh bien, figurez-vous que c'est la Pride d'Angers qui revient à ses premières amours, à savoir le mois de mai de chaque année, après avoir été très contrarié, voire annulé en 2020, puis décalé en septembre en 2021. La Pride d'Angers revient le 14 mai. Alors, notez les horaires. 11h, ouverture du village des Fiertés, esplanade Cœur de Maine à Angers. 14h, rendez-vous pour la marche des Fiertés LGBTI+, toujours esplanade Cœur de Maine. Et puis nous irons marcher, nous reviendrons aussi sur l'esplanade Cœur de Maine. Et puis à 18h, eh bien, il y aura le début du Bifort à l'entre-deux 90 rue Lyonnaise chez François, l'entre-deux, le bar LGBTI+. Et puis, c'est le grand retour de la soirée officielle au Shabada à partir de 23h avec plein de surprises, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Le mot d'ordre, alors ça c'est important, hein, le mot d'ordre de cette année 2022 de la Pride, c'est transidentité, ça ne s'entend pas à l'antenne, mais je mets le pluriel, stop à notre psychiatrisation forcée, nous en parlerons très longuement dans 15 jours. Vous notez également sur vos tablettes que le samedi 21 mai, c'est la Pride d'Alençon et le samedi 18 juin, c'est la Pride de Laval. Concernant, alors on va détailler tout ça, mais je vous le dis tout de suite, concernant la Pride d'Angers le samedi 14 mai, il y a un appel qui est fait aux bénévoles, comme je vous l'ai expliqué, avec un lien pour s'inscrire et la réunion le 7 mai à 14h. Et puis, parmi les bénévoles, il y aura un groupe à destination des personnes handicapées pour les aider tout au long de la marche, de la journée, et de pouvoir les soutenir très ardemment, en tout cas, répondre à leurs demandes au moins au minimum. Donc, vous voyez que l'agenda est très, très, très rempli. Alors c'est pour ça qu'on en profite. Et vous profiterez également de toutes les possibilités qui sont de l'ordre de l'organisation du FestiPride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Gay Pride à Angers, Gay Pride et FestiPride ? Eh bien, tout simplement, le fait que c'est un programme qui a été préparé par l'ensemble des associations et des partenaires de Quasart pour l'organisation de cette Pride 2022. Alors, le FestiPride, lui, il va démarrer le 26 avril prochain et durera jusqu'au 7 juin de cette année. C'est-à-dire que c'est avant, pendant et après la Pride, avec des rendez-vous festifs et militants organisés par les associations partenaires. Alors vous notez sur votre agenda, dans ce Quasar en ZIE, on vous donne toutes les infos, notamment nos camarades du collectif Les Lucioles. Ça commence le mardi 26 avril à 20h avec un ciné-rencontre autour de deux documentaires d'Alexis Langlois aux 400 coups proposés par le collectif Lucioles de l'Université d'Angers. Alors pour sa deuxième édition du festival Version Queer, vécu si vous préférez, le collectif Luciole organise ce ciné-rencontre avec deux courts-métrages diffusés réalisés par Alexis Langlois et en sa présence. Le premier, eh bien, c'est le documentaire de la terreur mes sœurs. Alors le pitch, c'est aujourd'hui Kaltoum et ses copines qui essuient encore des insultes transphobes de la part d'inconnus. Mais aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, elles vont réagir et on va voir comment elles se débrouillent. Deuxième cours, les démons de Dorothy. Alors pour Dorothy, il est temps d'arrêter les comédies queer et de faire des films universels. Pour ne pas sombrer, elle se réfugie dans sa série Doudou. Et donc, ben vous pourrez profiter de ces deux documentaires. Et à l'issue de la diffusion, eh bien, il y aura des échanges avec Alexis Langlois qui vous fera le plaisir d'être présent à Angers, à l'invitation donc des 400 coups de rue Jeanne Moreau. Alors le tarif, il y a un tarif spécial qui est proposé par le collectif Luciole à 3 euros. Vous avez un lien pour aller sur cet événement et acheter vos places à l'avance à 3 euros. Donc vous allez sur quasar.fr et demain vous trouverez tout cela. Deuxième événement dans ce FestiPride, c'est le jeudi 28 avril, toujours proposé par le collectif Luciole pour sa deuxième édition du festival Vécu, donc version queer. L'association des étudiants et étudiantes et du personnel LGBTI de l'Université d'Angers organise un drag show festif réunissant plusieurs drag queens et drag kings de la région, qu'on se le dise. Et ça se passe au 122 rue de la Chalouère. C'est un terrible lieu que vous allez peut-être pouvoir découvrir. Alors, qui est-ce qu'il y aura sur les planches? Eh bien, vous découvrirez les performances de Chlamydia, joli nom, de Gabriella Cadabra, et puis de Ping Louvi, et de Sarah Azeg, et de Ladies Gust. Il y aura également comme possibilité de regarder, d'apprécier les prestations d'Ibuprofen, une drague bien connue, de Traumachisme, et ainsi que de Darling Millie, qui feront le déplacement de Nantes et de Rennes. Il y aura du chant, de la danse, du stand-up, de la magie. Bon, finalement, vous allez en avoir pour votre argent, puisque c'est à prix libre. Et tout ça sera rythmé par une soirée exceptionnelle, comme vous en avez rarement vu. Donc, aucune performance, par contre, en langue des signes française. Le lieu est accessible pour les personnes en fauteuil roulant, avec une zone calme. Donc vous notez, jeudi 28 avril, drag show spécial au 122, rue de la Chalouère. C'est un tiers-lieu offert par le collectif Luciole. Et vous pourrez en profiter parce que vous le savez et vous l'avez compris, eh bien c'est offert dans le cadre de Vécu, la version queer du collectif Luciole. Alors, autre temps dans ce Festipride autour de la Pride d'Angers, ce sera le jeudi 5 mai. Et le jeudi 5 mai, eh bien, il y aura un temps spécial que nous avons appelé Palabre. Palabre transidentitaire à l'entre-deux, donc vous notez, l'entre-deux 90 rue Lyonnaise. Et qu'est-ce qu'on va y faire à ce temps spécial de Quasar Palabre transidentitaire? C'est tout simplement un temps qui est organisé par la Team Trans de Quasar et le collectif Luciole. C'est une rencontre ouverte à tous les publics, LGBTI et queer et cisgenre, tout simplement, à base de témoignages des personnes transidentitaires concernées qui vont parler de leur vécu. Cela permettra au public cisgenre présent de découvrir le vocabulaire, le sens des termes utilisés et la réalité des parcours de transition et souvent de la transphobie vécue des personnes. Donc, jeudi 5 à 19h30, soirée Palabre transidentitaire à l'entre-deux. Autre rendez-vous. Ah, le vendredi 6, le lendemain, c'est un bingo drag essentiellement, dont les bénéfices iront essentiellement à la Pride d'Angers, toujours organisé à l'entre-deux, le bar LGBTI 90 rue Lyonnaise, à 19h. Alors, 2 euros la plaque pour jouer au bingo avec Ladies Gust qui sera aux commandes. Ce sera dingue et on pourra bien rire. On boira un coup, on en profitera. Si vous êtes prêts pour vous amuser, c'est le lieu. Vous allez vous dérider à cette fameuse soirée bingo drag au bar L'Entre-deux au profit de la Pride d'Angers. Il y aura de nombreux lots à gagner et puis des petites boules et des boules et des boules et encore et des plaques avec bien sûr n'importe quoi pour remplir les cases. Mais attention, Ladies Gust veille, elle vérifie tout. Alors évidemment, ce n'est pas intellectuel, c'est pas physique non plus. Encore qu'il faille bien maîtriser les plaques et on compte sur votre présence pour un bon moment de détente et pour mettre de l'ambiance. Dans ce Quasar on the Air sur Radio G, c'est le programme du Festipride de la Pride d'Angers du 14 mai et autour, avant et pendant. Lundi 9 mai, alors notez bien parce que c'est un grand rendez-vous, conférence débat sur les transidentités et transitudes, se défaire des idées reçues à la salle Davier, l'heure du rendez-vous 19h30. C'est organisé par la Team Trans de Quasar avec pour invités Clovis Maillet, Karine Espinera et nouveau de Yeus Thomas. Alors dès l'ouverture, eh bien pour nous donner une perspective historique, Clovis Maillet, qui est médiéviste, historien, abordera la fluidité du genre au Moyen-Âge, preuve que les questions de genre ne sont pas l'apanage de la modernité et que l'histoire médiévale peut aussi être relue au prisme de la transidentité. C'est un nouveau regard sur les transidentités dans l'histoire qui vont largement éclairer notre présence. Et puis nous parlerons de la transidentité. Si ce n'est pas un fait nouveau, les franchissements de genre suscitent toujours préjugés et brutalité, théorie et pression sur les existences des personnes concernées. Lorsque l'on évoque les transidentités, des questions viennent aussi inéluctablement que comment un homme pourrait-il devenir une femme ? Une femme, un homme, point d'interrogation. Ces formulations ont-elles vraiment un sens ? Pour qui et pourquoi ? Une autre question aussi peut surgir. Quel est le sens du mot « devenir » ? Car les transidentités, appréhendées par le concept d'identité de genre ou sous l'idée d'expérience de vie trans, réinterrogent l'analogie naissance égale assignation, la biologie en fait si vous préférez, versus état civil. Être trans ou est ainsi une expérience du monde qui questionne la construction sociale, qu'est la binarité, on ne naît pas, on devient, trois petits points. Et c'est ce dont vont nous parler nos invités, alors je vous les présente. Il y aura Clovis Maillet, qui est historien médiéviste, enseignant à l'École supérieure d'art et de design Tourangelle Mans, le fameux TALM, et qui est aussi artiste performeur avec Louise Hervé. Ils forment le duo Louise Hervé et Clovis Maillet, qui créent des conférences performances érudites. Il y a également Karine Espinera, qui est sociologue des médias. Elle est franco-chilienne. Elle est chercheuse associée à l'université Nice Sophia Antipolis, et membre du collectif au laboratoire d'études de genre et de sexualité UMGR LEGS, et puis membre aussi à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre du comité scientifique de la DILCRA. Et puis il y a également Maudieus Thomas, qui est une intellectuelle. C'est une intellectuelle et militante transféministe, cofondatrice et co-responsable avec Karine Espinera des études de genre et à l'université Paris 8. Ses recherches portent exclusivement ou essentiellement sur une comparaison anthropologique des différents régimes, sexe, régime en Europe, régime des sexes et genres en Europe et dans le monde. Eh bien, dancing, justement, parlons-en. Je vous l'ai dit, Pride d'Angers le 14 mai. C'est le grand retour de la Pride Night au Shabada, la soirée officielle de la Pride d'Angers à 23h. Elle est organisée par Quasar et la Pride Night revient enfin après 3 ans d'absence. C'est une nuit de dance floor avec 2 salles, 2 ambiances. Alors, une nuit queer avec DJ Pam du collectif des Sœurs Malsaines dans la grande salle. Il a laissé un souvenir tout à fait mémorable au platine de la scène podium de la Pride du 25 septembre 2021. Après avoir mis le feu à la pelouse au retour de la marche sur l'esplanade Cœur de Maine, il ne pouvait plus se débarrasser de vous, même en programmant alors les titres les plus improbables. Il a prouvé que tout faire était possible et il fera pire encore donc le 14 mai prochain à la Pride Night au Shabada, dans la tenue la plus improbable, et vous êtes prévenus, vous n'aurez pas à vous plaindre. Il y aura DJ Nico également dans le club, lui qui est plus sage, il est de retour dans la région après nous avoir fait quelques infidélités, il sera aux commandes du club. Et puis, dans la grande salle, en ouverture, il y aura la place en début de soirée aux gagnants du concours de DJ de Quasar. Donc vous pourrez en profiter et ce sera, parce qu'il y aura un concours, le moment de vous inscrire et d'en profiter. Le 17 mai, notez bien sur vos agendas une date spéciale puisque c'est la journée de lutte mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et Quasar vous donne rendez-vous avec un programme tout à fait spécial. C'est la programmation d'un film qui s'appelle film documentaire, qui s'appelle Nos corps sont vos champs de bataille. Et c'est aux 400 coups. C'est organisé par la Team Trans de Quasar. Et donc, vous pourrez tout à fait être des nôtres. Alors, vous notez tout à fait sur vos tablettes qu'il faudra absolument que vous puissiez suivre ce film, puisque c'est en partenariat avec les 400 coups, le cinéma parlant, et Dublin Film, en présence de la réalisatrice Isabelle Solas, réalisatrice de ce film documentaire. Alors, de quoi s'agit-il très exactement? Eh bien, c'est une... film documentaire que Océan, l'artiste que vous connaissez bien, chronique de la manière suivante. Isabelle Solas signe ici un magnifique film sur deux militantes argentines trans, si représentatives de l'énergie extraordinaire des femmes trans engagées à travers le monde et particulièrement en Amérique latine. Les deux parcours croisés nous montrent la variété des stratégies pour conquérir de nouveaux droits et surtout deux femmes puissantes et bouleversantes face à leur époque. Le cinéma est sobre, élégant, respectueux et engagé, celui d'Isabelle Solas, qui nous plonge dans le quotidien de ces deux personnes transgenres avec une grande intelligence. À la suite de la programmation, eh bien, on pourra suivre le débat qui sera engagé avec la salle et également, eh bien, vous, le public. Nous marquons une pause et nous entamons tout à fait la thématique élection. Juste après Alex Baupin.
D'un tableau de Francis Bacon, je suis sorti faire l'amour avec un autre homme qui m'a dit: embrasse-moi, Hardy, à Frisco, non loin de Sodome. Là aussi, j'ai connu un très beau jeune homme qui m'a dit:
celle d'Alex Baupin qui a repris Gainsbourg, tout un album, vraiment je vous le conseille, qui date de fin 2021, début 2022. C'était Kiss Me Hardy. Nous aussi on vous embrasse hein, quand même. Premier invité dans ce Quasar on the Air numéro 16 de la saison 2021-2022 sur Radio G 101.5, c'est Jean-Christophe Testu, le président de la fédération LGBTI+. Bonjour Jean-Christophe.
Bonsoir Stéphane.
Alors on est heureux de t'accueillir, on va rappeler que la fédération LGBTI+, comme son nom l'indique, est une fédération qu'elle regroupe associations et principalement des centres LGBTI à travers la France et que, ensemble, ces associations et ces centres réfléchissent à comment produire une parole militante et organisationnelle. Et comme tout le monde l'aura bien noté, nous sommes à quelques jours, 3 très exactement, du vote du deuxième tour et que nous n'avons pas pu faire la semaine dernière le point sur les programmes, eh bien nous le faisons ce soir et puis nous allons parler, si tu le veux bien, du communiqué de presse que nous avons co-signé, association, fédération et Quasar entre autres, concernant ce communiqué qui dit pas une seule voix à Marine Le Pen. Alors est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes du communiqué et nous expliquer quelle est finalement l'ossature de la position de la fédération, de Quasar et des autres qui l'ont co-signé?
Tout à fait. Tout d'abord pour dire qu'effectivement au niveau de la fédération, tu l'as rappelé, c'est un ensemble de structures en France et je rappelle quand même que Quasar est une des structures fondatrices, c'est un des piliers, une référence au niveau de la fédération. Donc merci de me donner la parole sur cette question. Effectivement, notre communiqué de presse, pas une voix LGBTI+, pour Le Pen, c'est quelque chose donc qui a été décidé ensemble. En fait, la stratégie avait plusieurs possibilités. Après le premier tour, donc juste avant le second tour, on peut ou ne pas donner de consigne de vote, ou donner une consigne de vote en faveur de quelqu'un, ou donner une consigne de vote pour s'opposer à quelqu'un. Là, effectivement, on a voulu aller un petit peu plus loin, dans le sens que pas une voix LGBTI+ pour Le Pen, c'est une consigne de vote pour s'opposer à quelqu'un, bien sûr à Marine Le Pen, tout en sachant que parmi les LGBTI+, eh bien, il y a des personnes qui vont voter Emmanuel Macron par conviction, d'autres par défaut, ou d'autres qui ont peut-être un peu de difficulté par leur histoire personnelle, parce qu'ils ont vécu ces 5 dernières années une difficulté à s'exprimer aussi facilement, aussi clairement vis-à-vis d'un vote. Et donc, nous appelons vraiment au minimum, et ça c'est le mot est important, à ce qu'aucune voix LGBTI+, n'aille à Marine Le Pen. C'est-à-dire que nous intégrons aussi le fait que certains, et sans mépris, sans condescendance, certains puissent avoir des réticences ou des difficultés à voter. Un vote Emmanuel Macron. Pour autant, ce communiqué de presse dit que ce n'est pas la peste et le choléra. Il y a deux poids, deux mesures malgré tout. Et effectivement, Marine Le Pen, quelques sondages étaient un peu inquiétants. Il y a quelques semaines, disaient que 15% des LGBTI+, étaient tentés ou séduits par Marine Le Pen, qui avait soi-disant fait une mutation, une métamorphose, qui était beaucoup plus friendly qu'auparavant, qui s'était entourée de personnes qui devenaient bienveillantes. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi son entourage, il y a aussi ses cercles. Ces cercles d'influence, ces cercles militants. Et en fait, autour d'elle, il y a vraiment des personnes extrêmement LGBTI-phobes, extrêmement inquiétantes. En plus de cela, elle l'a rappelé hier lors du débat, elle a fait plusieurs fois référence au référendum qu'elle utiliserait de manière abondante. Et la manière dont elle vivrait ou elle ferait vivre cette présidence est inquiétante également. Un référendum en lui-même, c'est une expression directe. Après tout, plusieurs présidents passés ont déjà utilisé ce moyen d'expression directe. Et en soi, c'est très démocratique. Sauf que là, son utilisation abusive et la manipulation de ce référendum, quelque chose de très binaire, hein, oui, non, noir ou blanc, c'est très manichéen, et peut être inquiétant dans la mesure où, en fait, elle peut très bien cliver la société et manipuler ces données, donc ces résultats.
Ce modèle populiste, on va le dire comme ça, puisqu'elle n'a que le mot peuple à la bouche, non pas que nous soyons contre, mais c'est l'utilisation référendaire pour finalement modifier la Constitution sous l'article 11, qui n'est absolument pas réglementaire, mais ça sera un autre débat. Et donc, dans ce communiqué, quand on dit pas une voix pour Marine Le Pen, on fait aussi le bilan du quinquennat Macron.
Oui, tout à fait. Le communiqué de presse écrit noir sur blanc qu'en fait les positions ont été décevantes et qu'en fait on peut être tout à fait déçu par ce quinquennat où des mesures vis-à-vis des LGBT sont arrivées très tardivement vers la fin du quinquennat et où elles sont incomplètes. La PMA pour toutes, ben non, la PMA c'est pas pour toutes les femmes malheureusement. Les personnes trans ont été exclues de ce dispositif. Donc en fait ce sentiment d'avoir été fait à moitié, d'avoir, il faut parfois la va-vite, fait qu'effectivement, on ne peut être que déçu par ce quinquennat. Et en plus, ces déclarations récentes sur le fait que les lois sociétales ont été faites, eh bien, dans les 5 prochaines années, il ne se passera pas grand-chose. C'est aussi un peu inquiétant sur l'avenir des revendications LGBTI entre 2022 et 2027. Donc, effectivement, on a un contrat sans concession très lucide sur la politique à venir d'Emmanuel Macron. Pour autant, en faisant quand même le distinguo entre les deux.
Alors, on a également des visuels qui sont visibles sur les réseaux, sur les sites et ainsi de suite, et ça a déjà provoqué des réactions, notamment à Perpignan, et on se demande bien pourquoi.
Oui, on s'est dit aussi que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Marine Le Pen au pouvoir? Eh bien, Marine Le Pen, si elle est élue, un certain nombre de choses pourraient basculer, et on les rappelle sur les réseaux sociaux, un jour, une phrase, quelque chose qui concrètement veut dire ça. Par exemple, si Marine Le Pen est élue, les subventions nationales aux associations LGBTI+, c'est fini. Et ça, c'est un fait pour le moment, en tout cas dans les conseils municipaux, régionaux, départementaux, les membres du FN ou du RN votent systématiquement contre les demandes de subventions. Et à Perpignan, Louis Alliot s'est fulminé apparemment et en disant que c'était complètement faux. Une de ses conseillères, effectivement. Et le président de l'association locale, donc Jean-Luc Thévenot de LGBTQ66, effectivement, il va répondre sur ce champ parce qu'effectivement, il n'y a pas de subvention. Non, ce n'est pas un mensonge, c'est un fait que les subventions pour l'instant locales aux associations LGBTI+ sont gelées par les pouvoirs en place lorsqu'ils sont Front National ou RN.
Alors dans la dernière minute qui nous reste, quels sont les autres slogans que l'on voit et que l'on va entendre, que nous utilisons?
Les slogans qu'on reprend vont reprendre en fait les items et vont reprendre les thématiques qui ont été envoyées aux candidats. Donc globalement, quelque chose aussi autour des institutions européennes, la défense des droits LGBTI+, dans les institutions européennes, c'est fini avec Marine Le Pen. La formation des fonctionnaires aux questions LGBTI+, c'est fini avec Marine Le Pen. La question d'asile, et je sais qu'à Quasar vous êtes très sensible à cette question parce que vous êtes pionnier sur cette question et vraiment moteur, le droit d'asile quand on va fuir un pays LGBTI-phobe avec Marine Le Pen, c'est fini. Rien que ça, par exemple, dire les demandes d'asile devraient se faire dans le pays d'origine, c'est une absurdité. Remettre en question, nous on souhaitait par exemple remettre en question la notion de pays sûr qui était dictée par l'OFPRA. On n'a pas beaucoup de temps pour développer tout ça.
Non, mais il y a aussi l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle qui serait terminée.
Et puis, on a voulu aussi ouvrir, parce qu'on a aussi dans les associations LGBTI+, les groupes féministes, et puis la question des femmes, elle est imbriquée aux questions LGBTI+. Effectivement, on s'inquiète du fait qu'avec Marine Le Pen au pouvoir et ses groupes d'influence, la contraception et l'IVG pour les personnes mineures, eh bien, ça risque d'être fini.
Alors, Jean-Christophe, ce que je te propose, c'est que nous nous séparions bons amis, comme d'habitude, et puis nous allons poursuivre ce programme de la Fédération LGBT et accueillir un autre membre, le secrétaire en l'occurrence, Kevin Gallet, dans quelques instants, et nous allons reprendre les programmes des candidats sur les différents points qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup Jean-Christophe.
Merci à toi Stéphane.
Et ciao, bonne soirée.
Merci bien. Radio G 101.5 FM.
Oh,
Diogé Funky, cool hein, ce soir, 101.5 Quasar en d'hier, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe d'Angers du Maine-et-Loire. Et puis en plus, il fallait bien quelque chose de funky, sexy pour accueillir notre nouvel invité au téléphone, c'est Kevin Gallet, qui nous rejoint. Il est le secrétaire de la fédération LGBTI. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Stéphane.
Alors, toi, tu nous rejoins depuis du côté de Nancy, puisque c'est là où tu crèches et que tu es responsable de l'association Equinox. Je ne me trompe pas. C'est ça. Tu m'entends bien ?
Oui, oui, aucun problème.
D'accord, ok, moi je t'entendais moins bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a invité ? Tout simplement, c'est parce qu'en tant que secrétaire de la fédération LGBTI, tu as potassé la plateforme de revendication. Et ce qu'on propose à ceux et celles qui sont avec nous ce soir et qui nous font l'amitié de rester, parce que ce n'est pas un sujet toujours facile, nous allons un peu aborder en deux vagues la question des revendications. Alors, la fédération, les associations, on en a listé une quinzaine. Et je te propose de les égrener assez rapidement par les différents points. Et on commence par la mesure numéro 1 qui concerne le droit d'asile et l'international. Quels étaient les points forts sur lesquels on avait particulièrement veillé à porter notre regard et avoir des demandes ?
Alors, sur la question du droit d'asile, puisqu'on a beaucoup d'associations membres de la fédération LGBTI, dont Quasar, qui s'investissent en faveur du droit d'asile pour les personnes LGBTI en situation de demande d'asile, on était partisans, on est toujours partisans d'une réforme qui améliore sensiblement la façon dont ces personnes en particulier sont traitées par le système pour avoir une qualité d'accueil et une effectivité du droit à l'asile et au séjour des personnes LGBTI.
C'est ça.
Donc ça pose toute une série de questions comme l'accès au travail, la question des conditions matérielles d'accueil des personnes, le logement, les aides financières. Et surtout, un des points qui était discriminant pour nous, au sens où il permettait de distinguer quels étaient les candidates et candidats qui s'investissaient ou non sur la question, c'est la question des pays sûrs, puisqu'on a une liste de soi-disant pays sûrs qui est dictée par l'OFPRA, et qui permet donc une liste de quelques pays pour lesquels les procédures de demande d'asile sont beaucoup plus expéditives que pour les autres, sous prétexte que ce seraient des pays sûrs. Pays sûrs, pas pour tout le monde, en tout cas pas pour les LGBTI dans un certain nombre
c'est
de cas.
Ça. Et puis il reste le problème de la CNDA avec les ordonnances qui tombent, c'est-à-dire pour rappeler à tout le monde, les ordonnances ce sont des décisions, des jugements rendus par les magistrats sans convocation de la personne intéressée, ni représentation de son avocat, et ce sont très souvent des ordonnances pour rejeter la demande, et souvent après les personnes n'ont plus aucun recours, sauf à prouver, à amener des éléments nouveaux. Deuxième mesure importante, la gestation pour autrui, que nous portons aussi, mais avec évidemment des précisions.
Voilà, donc nous on était, alors d'abord sur la filiation d'une façon générale, on était favorable à un certain nombre de mesures permettant d'établir la filiation de façon indépendante du genre administratif des personnes. Et la GPA, depuis quelques années, la Fédération LGBT, après bien des débats, s'est positionnée en faveur d'une GPA éthique dans un cadre gratuit. Donc là, c'était aussi une revendication qu'on a portée pour les élections présidentielles, puisque c'était complètement discriminant entre les candidats. Donc là, pour le coup, ça veut dire simplement que le cadre dans lequel on envisage la GPA, c'est celui d'un cadre où il n'y a pas un marché.
Voilà.
Par la suite, mais un cadre de gratuité, de consentement de la démarche.
Et un cadre juridique bien marqué. Troisième mesure, la refonte de l'affiliation, tu en parlais, et là c'est un point excessivement important.
Oui, complètement. L'un des éléments qui nous est remonté, en tout cas dans la dernière période, c'est les complications liées au dispositif qui a été imaginé pour la PMA, celui de la reconnaissance conjointe anticipée.
Alors ça, c'est un vrai scandale. Hein. On doit vraiment le dire, parce que c'est pas du tout une reconnaissance conjointe anticipée. C'est une déclaration avant conception, parce que les termes sont vraiment très importants. Et aujourd'hui, il y a un nombre, mais incalculable, de couples lesbiens qui se disent on va le concevoir, notre bébé, et puis on aura bien le temps après. Et là, badaboum, mauvaise nouvelle. Ah non, mesdames, vous avez entamé la grossesse, c'est trop tard. Vous ne disposerez pas de la possibilité de cette nouvelle loi. C'est vraiment absolument dingue, quoi.
Alors ça, c'était un traquenard. Hein. On l'a vraiment conçu comme ça. Et les copines qui viennent nous voir dans les différents centres, membres de la fédération ou non d'ailleurs, nous disent que c'est vraiment conçu comme un traquenard dès le départ. Hein. Ça, c'est clair.
Et il faudrait bien qu'elles se fâchent, à mon avis. Hein. Ça serait vraiment, vraiment très utile, parce qu'on les a pris vraiment pour des quiches et sans mauvais jeu de mots. Hein. Donc, toute la refonte de l'affiliation, alors on fait une incise pour dire que le RAVAD, avec son comité consultatif, va vraiment réfléchir juridiquement à tout ce que ça induit, et ça va très profondément dans le droit. Donc, on en reparlera très largement. La mesure numéro 4, c'était l'alignement du PACS sur le mariage. Pourquoi donc, monsieur Kevin Gallet?
Oui. Alors, quand on a refait nos revendications, on avait déjà cette vieille revendication qui était là. Et on y a réfléchi. Et c'est vrai que dans les discussions, finalement, on s'est dit que la difficulté du régime du PACS actuellement, c'est que, par exemple, en cas de décès d'un des conjoints, l'autre conjoint n'avait pas beaucoup de droits par rapport à un conjoint marié. Mmh. Donc, nous considérons que on peut tout à fait aligner tout ce qui relève des droits liés au mariage à ceux du PACS et vice-versa.
On rappelle que le PACS a été créé en 99, justement sur la revendication que, à l'époque du SIDA, comme il n'y avait aucun droit, la famille du défunt dans un couple gay, par exemple, ou lesbien, pouvait débouler et mettre la personne survivante, mais vraiment à la rue en 10 secondes. Hein, et il n'y avait vraiment aucun droit. Ça a été le début, et on se souvient des manifs anti-PACS, les PD au bûcher et compagnie. Mesure numéro 5, changement d'état civil, libre et gratuit sur simple déclaration en mairie. Alors là, c'est la question de la transidentité, des transidentités.
Exactement. Alors là, c'est une revendication phare, hein, puisque c'est une des qui clive le mieux, en tout cas, entre les candidates et les candidats, puisqu'elle est aujourd'hui majoritaire dans les associations LGBTI. Il s'agit simplement pour les personnes qui souhaitent changer leur état civil pour apparaître sous leur genre ressenti et sous leur prénom de façon la plus simple possible. Hein. C'est-à-dire qu'on va en mairie, on déclare et puis c'est tout. Donc là, cette revendication, elle a avancé dans la dernière période puisqu'on a eu un avis, une décision cadre du défenseur des droits qui nous légitime complètement dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on attend quoi qu'il advienne, en tout cas maintenant, que les choses avancent de ce point de vue-là.
Donc, numéro 6, le parcours de santé dépsychiatrisé et à la carte pour les personnes transgenres. On reste sur les transidentités, mais là, c'est une autre question.
Tout à fait. Là, on est plus sur la question du parcours de soins pour les personnes transgenres qui le souhaitent, bien sûr. Il s'agit de rendre effective, en tout cas, la dépsychiatrisation de la transidentité, puisque vous savez que la transidentité jusqu'à la fin de l'année dernière était encore considérée comme au niveau international comme une pathologie. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas.
Voilà, effectivement.
Voilà, malgré tout, la France est toujours à la ramasse, hein, comme d'habitude, sur ces questions-là, et il y a toujours des difficultés liées au fait qu'on a un système qui est tenu par des médecins qui ne reconnaissent pas aux personnes transgenres qui s'engagent dans ces démarches-là le droit de choisir leur médecin.
Alors c'est pas que les médecins, hein, c'est la CPAM des différents départements, c'est les ARS qui n'indiquent pas de praticiens d'endocrino non psychiatrisants. Enfin, nous dans le Maine-et-Loire, c'est clair, il n'y a plus un seul endoc pour les majeurs qui accepte de suivre une personne trans à genre ou non binaire sans exiger d'elle ou de lui ou d'eux une attestation de psychiatrie psychiatre. Vraiment, c'est dramatique, quoi. Et c'est chez nous, à Angers. Le thème de la prochaine Pride, le 14 mai prochain, ce sera donc le thème transidentité au pluriel, stop à notre psychiatrisation forcée. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Je te propose une pause, et comme je sais que tu es fan, je t'ai préparé Mylène Farmer, L'âme dans l'eau. À tout de suite.
L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd à nos sentiments, l'air est court et mon manque de toi, toi mon autre moi, tu vois, j'ai l'âme dans l'eau. Si les songes ont des portes qui me mènent là à tes côtés, l'ombre et droit, j'ai dû traverser aux douleurs car nul ne sait.
On va aller plus vite,
j'ai l'âme dans l'eau. Béni soit mon refuge, béni soit l'heure de ma maison. D'où le souffle, nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau. J'ai l'âme dans l'eau. L'air est lourd de ton absence. À mes sentiments, l'ange au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau.
Finalement, hein, on était là entre nous, on est entre amis, on en profite, c'est 101.5, c'est Quasar on the air. Kevin Gallet est toujours avec nous au téléphone, et Kevin, comme on le disait très généreusement pour tout le monde alors qu'on croyait être tous les deux, eh bien on continue avec la mesure numéro 7 des revendications de la Fédération LGBTI pour ces élections et pour les prochaines élections législatives. Mesure numéro 7, l'enquête sur les discriminations et le testing.
Oui, exactement. Ça, c'était une mesure, pour l'essentiel, qui avait été proposée par Emmanuel Macron en 2017. Il s'agit de faire des enquêtes systématiques dans les entreprises, notamment, mais aussi par rapport aux propriétaires, sur leurs pratiques pour identifier celles qui discriminent et celles qui ne discriminent pas et publier les résultats de ces enquêtes.
On connaît ça avec le logement, par exemple, mais adapté à d'autres situations. Mesure numéro 8, ou point numéro 8, la dépénalisation du travail du sexe qui est mise en avant et que nous supportons.
Exactement. Alors là, c'est toute une série d'enquêtes qui ont démontré que la pénalisation du travail du sexe ou même de la clientèle sont source de violence pour les personnes qui sont travailleuses du sexe. Donc on se souvient des conditions du meurtre d'un certain nombre du meurtre de Vanessa Campos en août 2018 qui illustrait ça. C'est-à-dire que la politique putophobe, comme on l'appelle, ne permet pas d'améliorer la situation des travailleurs et travailleuses du sexe qui sont dans une situation de précarité.
Alors d'où on fait la différence à Quasar aussi, parce que c'est important de le dire, quand on parle des travailleuses et travailleurs du sexe, on est bien conscient que certaines autres personnes qui pratiquent aussi la prostitution ne souhaitent pas être appelées comme ça, et pour elles c'est pas un travail, mais c'est quelque chose de subi, et que ces personnes qui souhaitent sortir du monde de la réalité prostitutionnelle, évidemment, ça ne pose aucune difficulté pour nous, mais qu'on reconnaisse les personnes qui veulent en sortir et celles qui veulent en faire leur profession en ne leur interdisant pas de pouvoir le faire et en arrêtant d'être hypocrites, tout simplement. On est bien d'accord que c'est notre position.
Exactement.
Mesure numéro 9, la fin des mutilations et médications forcées sur les enfants intersexes. Alors ça, c'est un point super important qui a été loupé par le quinquennat Macron.
Exactement. Donc là, il faut savoir que les enfants qui naissent intersexes, qui sont intersexes aujourd'hui, il y a des pressions sur les parents pour les réassigner de force, notamment par la chirurgie, au niveau du sexe. Et donc, ce qui est aujourd'hui demandé par les associations intersexes et par la fédération LGBTI, je grossis le trait, c'est simplement de laisser aux enfants le libre choix à la fin de leur genre, en fonction de leur propre autodétermination.
Voilà. On rappelle que les enfants intersexes, les personnes intersexes, ce sont celles qui, à la naissance éventuellement, sont nées avec les caractéristiques biologiques et physiques des deux sexes à la fois, l'un plus développé que l'autre éventuellement, ou qui se révèlent à l'âge adulte être intersexes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les caractéristiques chromosomiques, hormonales des personnes dites masculines ou des personnes dites féminines. Il y a des tas de considérations, il y a des tas de réalités et il y a un champ très important de situations diverses et variées. Ça nous est arrivé de recevoir des personnes à Quasar qui nous disaient, ben voilà, j'ai 30 et quelques années, je viens de découvrir que je suis intersexe, je ne le savais pas. Donc on parle bien de ces personnes-là et surtout des enfants intersexes, qu'on arrête de les mutiler, ça serait vraiment l'idéal et surtout c'est ce qu'il faut obtenir. Mesure numéro 10, on commence la grande suite des mesures sur la santé, notamment le suicide et la santé mentale. Qu'est-ce qu'on dit très exactement à ce sujet ?
Alors, ce qu'on dit très exactement, c'est que les populations, les publics LGBTI sont un public à risque par rapport aux problèmes de discrimination et de violence qui produit toute une série d'effets sur la santé mentale. Et pour la fédération LGBTI, pour les associations, donc avec des effets en termes de suicide, de dépression, de détresse sociale. En fait, les politiques en faveur de la santé mentale sont des politiques qui impliquent les personnes LGBTI. Donc il s'agit pour nous de demander aux politiques d'intégrer la lutte contre le mal-être et le suicide, notamment des jeunes LGBTI, dans les politiques de santé publique, et de former les professionnels de santé, y compris de santé mentale, sur les questions liées au genre et à la sexualité.
Alors, dans la même foulée, mesure numéro 11, promotion de la santé sexuelle communautaire, parce que quelque part, ça se répond tout ça.
Exactement, là c'est le volet sexuel en fait de la santé globale, donc c'est la même chose en fait, il s'agit de faire de mener des actions de santé dans les politiques publiques qui soient dirigées vers les différents publics LGBTI+.
Voilà, avec des campagnes qu'on ne voit toujours pas, ou au moins celle qui a existé a été censurée dans de nombreuses villes, dont à Angers, on le rappelle. Mesure numéro 12, la prévention contre les IST, les hépatites et le VIH, puisque les HSH restent toujours une population où on n'arrive pas à faire trop baisser la prévalence et les contaminations.
Donc les HSH, hein, eux ayant des rapports sexuels avec les hommes, c'est 39% des nouveaux diagnostics de VIH. En 2019, donc ça reste un public à risque, un public particulièrement exposé. Et donc la réponse est toujours la même. Il s'agit de garantir l'accès gratuit, simple, universel sur tout le territoire de tous les outils de prévention des risques des VIH, IST, hépatite. On pense en particulier à la PrEP. Dont l'accès est encore très compliqué dans un certain nombre de territoires.
Oui, oui. Et on rappelle que maintenant les tests en labo, sans ordonnance, ont commencé et sont possibles, donc c'est un des outils. Mesure numéro 13, la lutte contre les LGBT-phobies dans le système éducatif.
Alors là, il y a deux éléments, dans et par le système éducatif. Donc par le système éducatif, c'est d'abord les heures d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont prévues dans le code de l'éducation. Il s'agit qu'elles soient organisées effectivement et qu'elles incluent un volet LGBTI avec l'intervention régulière des assos LGBTI.
Et on rappelle que sur ce point-là, on t'entend mal, Kevin. Voilà, on t'entend peut-être mieux maintenant. Le président de la République actuel et candidat s'est exprimé récemment pour dire que l'intervention au collège, il n'y était pas tout à fait favorable, ni en primaire. On tombe à la renverse quand même, vraiment.
Le deuxième élément. Par rapport à ça, c'est d'aller plus loin que ce qui a été proposé par le gouvernement actuel sur la question des enfants transgenres dans le cadre scolaire et de leur permettre d'avoir leur libre autodétermination de leur identité par le prénom d'usage sans l'accord parental, puisque le refus de reconnaître le prénom d'usage, c'est pour nous une maltraitance duquel sort le champ de l'autorité parentale.
Alors tout ce qui traite à la maltraitance dans les familles pour les enfants mineurs, je rappelle qu'il y a quand même une découverte, c'est qu'il existe des parquets pour mineurs et qu'ils peuvent saisir les magistrats et se faire aider par une association et trouver avocat. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mesure numéro 14 dans la minute qui nous reste, l'emploi, et 15, le cyberharcèlement. Sur l'emploi d'abord.
Sur l'emploi, on retrouve le testing dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà, pour lutter contre toutes les discriminations prévues par l'article 225.1 du Code pénal. Donc il y a une vingtaine de critères, dont l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et puis le contrôle d'informations d'affichage obligatoire des textes sur l'égalité femmes-hommes. Puisque ça, souvent, il y a très peu d'informations dans les entreprises et de formation des professionnels sur la question. Et puis par ailleurs, nous, on milite pour la formation et la lutte contre les discriminations dès le lycée professionnel.
C'est ça.
Parce qu'on a des formations sur la sécurité au travail, c'est les modules SST au lycée professionnel. Je souhaite qu'il y ait une formation contre les discriminations au lycée et dans tous les CFA.
Allez, 30 secondes sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Voilà.
Donc le cyberharcèlement, donc qui est une véritable plaie. Donc il s'agit de renforcer les moyens, de demander le renforcement des moyens de l'État en matière de lutte contre le cyberharcèlement, avec des vrais moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux. En particulier sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit pas de déléguer la gestion de ces problématiques aux réseaux sociaux privés, mais d'avoir vraiment des moyens humains, des magistrats, des procureurs qui soient vraiment affectés à cette tâche-là, qui n'est pas une petite tâche.
Effectivement. Un grand merci. Le retour très vite, Kevin Gallet, donc secrétaire de la Fédération LGBTI+ d'Angers, avec ce programme de revendication que, évidemment, Quasar co-signe. Et puis on se dit à l'après deuxième tour pour les législatives. On aura besoin encore de potasser tout ça. Très belle soirée, Kevin. Merci, au revoir. C'est ça. Allez, très vite, un coup d'œil sur l'agenda avant de refermer ce Quasar on the air. Les permanences, 17h, 19h chaque samedi, les 23 et 30 avril, le 7 mai, mais pas le 14. Pourquoi ? Parce que c'est la Pride d'Angers, samedi 14 mai prochain, sur un mot d'ordre, transidentité, stop à notre psychiatrisation forcée. Vous notez le groupe de parole des parents et des familles de personnes trans transparents, le mardi 3 mai à 19h, et puis la réunion du samedi 7 mai, réunion des bénévoles, spéciale Pride. Allez, on s'embrasse, on se souhaite une bonne soirée, on se souhaite un bon dimanche de vote. Eh oui, il faudra bien. Et puis, on se dit à dans 15 jours avec un numéro totalement dédié à la Pride d'Angers. Belle soirée sur Radio G. Ciao, bye. Et on vous souhaite en pleine forme. Ciao.
Radio G, 101.5 FM.